Les séminaires du Collège de France.
Rebonjour, merci d'être resté. Vous n'allez pas regretter d'être resté puisque nous avons la grande chance d'avoir cet après-midi avec nous Cathel Berthelot, directrice de recherche au CNRS et grand spécialiste du judaïsme à l'époque romaine. Cathel Berthelot, elle a eu beaucoup de prix. Je ne veux pas tous les lire, mais elle a eu la médaille de bronze du CNRS, lauréate du prix Irène Jolet-Curie pour jeune femme scientifique de l'année. Bah, c'est magnifique. Ça date un peu, mais on reste jeune quand même. Voilà. Et puis donc, elle travaille surtout sur l'impact de l'Empire romain sur le judaïsme antique. Elle a fait sa thèse sur Israël, l'humanité dans la pensée juive à l'époque hellénistique et romaine, qui a été publiée en 2003. Et ensuite, elle a fait un travail de HTR qui s'intitule alors Les Écritures à la Terre, recherche sur les textes et l'histoire du judaïsme à l'époque hellénistique et romaine. Ça a été traduit ou publié en anglais. Et puis, il y a un livre récent. Alors, beaucoup d'autres livres, mais je ne veux pas. Elle a aussi fait quelque chose sur le monothéisme, j'ai vu. Puis, donc. Peut-être le dernier à citer, Philanthropia Judaica, le débat autour de la misanthropie des lois juives. Ah non, ça c'est pas le, c'est un plus
c'est le premier.
C'est le premier, donc il faut que j'aille dans l'autre côté. In Search of the Promised Land, the Hasmonean Dynasty Between Biblical Models and Hellenistic Diplomacy, 2018. Et ensuite, 2021, Jews and the Roman Rivals, Pagan Rome's Challenge to Israel, Princeton University Press 2021. Donc vous voyez que Cathel Berthelot est très connue aussi sur le plan international et elle a eu une ERC aussi sur ces questions et je sais qu'elle est très occupée et donc merci d'être venue depuis le sud et tu vas nous parler donc des guerres maccabéennes et le modèle de Josué. Donc je vous ai parlé du modèle de l'autel, là on va avoir Josué en tant que modèle et ça va être passionnant. Donc elle va parler une heure.
Une heure et quart.
Et ensuite, nous pouvons prendre quelques questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Thomas, et merci pour cette invitation donc, à intervenir dans ce séminaire au Collège de France autour du livre de Josué. Et comme le mentionnait Thomas à la fin de son cours tout à l'heure, nous allons maintenant aborder finalement l'histoire de la réception des traditions liées à Josué, puisqu'avec les livres des Maccabées, nous voici plongés en pleine période hellénistique, au IIe siècle avant notre ère. Donc à ce moment-là, la Judée est intégrée à l'Empire Séleucide, qui est l'un des royaumes grecs fondés par les successeurs d'Alexandre le Grand. Et les relations entre les Juifs de Judée et les Séleucides, qui sont initialement plutôt bonnes, vont se dégrader sous le roi Antiochos IV, qui est décrit dans nos sources comme attaquant Jérusalem et interdisant les pratiques traditionnelles des Juifs, notamment la circoncision, la pratique du Shabbat, et on dit qu'il force les Juifs à sacrifier à des divinités étrangères et à manger du porc, entre autres choses. Alors un prêtre de la ville de Modine, nommé Mattathias, se rebelle contre les commandements du roi, et à sa suite, ses fils, notamment trois d'entre eux, Judas Maccabée, Jonathan et Simon, s'engagent dans une lutte contre le pouvoir séleucide, afin de préserver la liberté de culte des Juifs de Judée et le mode de vie ancestral des Judéens. En 164, avant notre ère, Judas parvient à reprendre Jérusalem et à purifier le temple qui avait été souillé par les cultes étrangers. Et cette purification va donner lieu à une fête commémorative, la fête de la dédicace, qui sera connue dans la suite de l'histoire du judaïsme comme la fête de Hanouka. Et vous voyez ici une Hanoukia moderne, représentant Judas Maccabée. Alors après la mort de Judas, son frère Jonathan s'allie avec l'un des prétendants au trône séleucide nommé Alexandre Balas, qui en 152 le nomme grand prêtre du temple de Jérusalem et stratégos, c'est-à-dire commandant militaire, en charge d'une partie importante du Levant. Donc les Jonathan et son frère Simon deviennent à ce moment-là non seulement des alliés, mais d'une certaine manière même des officiers des rois séleucides, ou en tout cas de certains rois séleucides, et ils vont mener une série de combats contre le camp séleucide rival, d'abord le roi Démétrios Ier, puis d'autres rois, Et petit à petit, ils vont réussir à agrandir la Judée en obtenant de nouveaux territoires, soit en échange des services rendus, soit en les conquérant par la force. Notamment, la ville de Joppé, ou Jaffa, sur la côte, et la ville de Gazara, ou Gezer, ici, qui sont conquises sous Simon. Alors vous voyez ici d'abord les zones conquises sous Jonathan, puis les parties sous Simon. Par la suite, c'est le fils de Simon, Jean Hyrcan, qui va reprendre la grande prêtrise et le gouvernement de la Judée, et qui va lui aussi, à partir de l'an 112 avant notre ère, se lancer dans une série de guerres de conquête. Notamment, il va prendre l'Idumée, dont il a été question tout à l'heure également, et puis la Samarie, au nord de la Judée, peut-être la Galilée, mais c'est débattu, ce seront peut-être ses fils après lui qui vont conquérir la Galilée, et puis à l'époque d'Alexandre Jeannet, un dernier fils de Jean Hyrcan, qui règne de 103 à 76 avant notre ère, eh bien la Judée va s'étendre donc depuis Raphia dans notre source, donc Rapha, voire éventuellement Rhino-Colour qui serait situé ici, jusque à la Golanitide, cette région-là tout à fait au nord-est, en incluant une série de territoires dans ce qu'on peut appeler globalement la Transjordanie. Alors il ne faudrait pas imaginer que cette expansion territoriale se fait de manière absolument continue et fluide. Il y a aussi des moments où les Asmonéens reperdent des territoires, mais ça vous donne une idée de l'ampleur territoriale que prend le royaume asmonéen à cette époque-là. Et je parle d'asmonéen car, en fait, les Maccabées sont également désignés par ce mot, hein, depuis Mattathias jusqu'à ses petits et arrière-petits-enfants. C'est d'abord chez Flavius Joseph que l'on rencontre cette appellation d'asmonéen, et puis ce sera ensuite repris dans les sources rabbiniques avec l'appellation Hashmonaï. Donc, vous l'avez compris, l'activité militaire est très intense durant cette période. Et on peut dire d'emblée qu'il faut distinguer au moins trois types de guerres. D'abord des guerres de défense ou de libération, donc pour mettre fin à ce que les Maccabées décrivent comme une persécution et pour pouvoir maintenir les pratiques traditionnelles des Juifs. Également pour venir au secours de certaines populations juives qui sont situées en dehors de la Judée. Nous allons y revenir plus longuement. Pardon. Ensuite, deuxième type de guerre, des guerres ou des expéditions militaires accomplies au nom d'un roi séleucide ou dans le cadre d'une charge exercée par lui, puisque je vous ai expliqué qu'ils avaient aussi rempli ce rôle d'officier de certains rois séleucides. Et puis enfin, des guerres de conquête, donc qui débouchent sur une occupation durable de certains territoires et leur soumission à l'autorité des Asmonéens. Alors cette histoire asmonéenne, nous la connaissons principalement par le premier et le deuxième livre des Maccabées, ainsi que par les écrits de Flavius Joseph, même s'il est beaucoup plus tardif, auxquels bien sûr il faudrait ajouter des monnaies, des sources archéologiques et quelques sources grecques également. Mais donc, ce sont principalement, dans un premier temps, le premier et le deuxième livre des Maccabées qui nous intéressent. Et je vais donc commencer par un rappel un petit peu plus détaillé quand même de ce que sont ces livres, ne présupposant pas que vous les ayez relus récemment. Et puis, dans un deuxième temps, je ferai un petit exposé finalement de l'histoire de la recherche pour vous expliquer comment s'est mise en place finalement l'idée que les Maccabées avaient pris Josué comme un modèle. Dans un troisième temps, nous allons examiner véritablement quels sont les passages relatifs à Josué dans ces deux livres des Maccabées et ce qu'ils nous apprennent. Et puis, pour finir, nous poserons la question de savoir si les Maccabées ou les Asmonéens ont mis en pratique le chérem de guerre, comme il est décrit dans le livre de Josué. Alors donc, je commence par une brève présentation des deux livres. Et d'abord par deux Maccabées, parce que c'est le plus ancien en réalité. C'est un livre qui a été composé directement en grec, probablement dans la diaspora, et qui est en fait un résumé déjà d'une œuvre en cinq livres d'un certain Jason de Cyrène. Donc, Cyrène, c'est en Libye. Et ce résumé, cet épitome, est introduit par deux lettres adressées par les Juifs de Judée aux Juifs d'Égypte et dans lesquelles il les exhorte à célébrer la fête de la dédicace. Or, l'une de ces lettres est datée de l'an 124 avant notre ère, même s'il y a un petit débat parce que Daniel Schwartz a proposé une autre datation à partir de variantes dans les manuscrits, donc ce serait peut-être 143 avant notre ère. En tout cas, donc, le corps du deuxième livre des Maccabées est écrit au plus tard avant 124 avant notre ère. Et c'est un livre qui rapporte des faits mi-historiques, mi-légendaires, survenus durant les règnes de Séleucos IV, Antiochos IV, Antiochos V et Démétrios Ier, donc en gros entre 180 et 160 avant notre ère. Donc il évoque la tentative de transformer Jérusalem en une cité grecque, qui se serait appelée Antiochia de Jérusalem, à l'époque d'un grand prêtre qui s'appelle Jason. Et puis, il dénonce la corruption et l'hellénisation d'une partie des prêtres de Jérusalem. Ensuite, il décrit la persécution sous Antiochos IV et, pendant plusieurs chapitres, les souffrances endurées par un certain nombre de martyrs juifs qui refusent de se plier aux ordres du roi. La lutte armée de Judas Maccabée et ses partisans commence en réalité seulement à peu près au milieu du livre et s'étend du chapitre 8 au chapitre 15. Donc il est question de la reprise de Jérusalem par Judas, de la purification du temple, et puis d'une campagne de sauvetage des Juifs de Transjordanie que Judas va ramener en Judée pour qu'ils échappent à leurs ennemis. Alors, le livre se clôt par la victoire finale de Judas contre un général séleucide qui s'appelle Nicanor et sur ce qui est présenté comme la libération durable de Jérusalem. Sur le plan idéologique, le deuxième livre des Maccabées est empreint de théologie deutéronomiste, selon le schéma bien connu, faute d'Israël, châtiment divin souvent à l'aide d'armées étrangères, repentance, expiation et retournement de situation en faveur d'Israël. Et le livre met l'accent sur la vertu du martyr comme ce qui finalement est l'élément déterminant du retournement de l'attitude divine vis-à-vis de son peuple. Le message principal, c'est qu'il faut être prêt à mourir pour rester fidèle au commandement de la Torah. Dans ce livre, il y a énormément de références au passé biblique, aux délivrances d'autrefois, que Dieu a accordé autrefois à Israël, énormément de références à des miracles, des visions, des rêves, des interventions divines et angéliques. Donc on nage dans le surnaturel et le merveilleux. Et toutes les victoires sont attribuées de manière très explicite au Dieu d'Israël, qui est sans cesse invoqué. L'ambiance est très différente dans le premier livre des Maccabées, et déjà dans ces illustrations du Codex de Leiden, on voit déjà un climat un peu différent. Alors, le premier livre des Maccabées, il est écrit à la toute fin du IIe siècle avant notre ère, probablement sous Jean Hyrcan, et il est écrit en hébreu, par un partisan de la dynastie asmonéenne. Et c'est même sans doute le document qui s'approche vraiment le plus du point de vue de la dynastie asmonéenne. Il a sans doute été traduit rapidement en grec pour diffuser cette idéologie asmonéenne dans les communautés juives de diaspora. Et maintenant, nous ne possédons que la version grecque. Donc, le livre s'ouvre, mais de manière très rapide, sur les circonstances qui ont donné naissance à la révolte. Et il insiste, contrairement à De Maccabée, sur le rôle initial de Mattathias, le père de Judas et Simon et Jonathan, que vous voyez ici. Ici, c'est Mattathias qui s'oppose en fait au commandement royal de sacrifier des dieux étrangers et qui assassine un juif qui, lui, était prêt à le faire. Et en faisant cela, Mattathias en fait, s'inspire, d'après l'auteur du premier livre des Maccabées, du modèle de Pinchas dans Nombre 25, qui met à mort un Israélite qui, avec une femme madianite, avait commencé à adorer des dieux étrangers. Et donc Pinchas les met à mort, et la mise à mort des infidèles éloigne la colère du Dieu d'Israël. Et c'est exactement ce que met en scène le chapitre 2 du premier livre des Maccabées. Et puis ensuite viennent trois cycles, le cycle des batailles et des hauts faits de Judas, le cycle de Jonathan, et puis le cycle de Simon. Vers la fin du livre, Simon est assassiné, et on voit son fils Jean Hyrcan prendre la relève de manière providentielle. Et ainsi, on voit que la dynastie se met en place et que le salut d'Israël va pouvoir continuer à être assuré. Alors, le langage dans lequel un Maccabée est écrit, donc, je vous rappelle, il est écrit en hébreu, c'est un langage vraiment qui s'inspire énormément d'expressions bibliques, mais de manière très éclectique. L'auteur va piocher dans un peu tous les livres de la Bible hébraïque. Alors, bien sûr, la Bible hébraïque n'existe pas encore en tant que telle au IIe siècle avant notre ère. C'est un peu anachronique, mais par convention, j'utilise ce terme. Et les références sont multiples également. Il y a aussi, par-delà le langage, des références à des épisodes précis de l'histoire d'Israël. L'idéologie du livre peut être qualifiée d'idéologie de la résistance armée. Et elle se distingue donc radicalement de l'idéologie du martyr, puisqu'elle consiste à combattre activement, au nom de la fidélité à la loi, tant l'ennemi extérieur non-juif que l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le juif impie, qui n'est pas fidèle à la Torah. Donc ce n'est plus la volonté de souffrir et mourir pour la Torah qui est mise en avant, comme dans 2 Maccabées, mais bien celle de combattre pour la Torah les armes à la main, donc y compris pour appliquer Deutéronome 13, hein, le cherem contre le faux prophète et la mise à mort des juifs infidèles. Et je précise aussi en passant que parmi les motifs de la lutte, qui sont mentionnés explicitement à plusieurs reprises dans le livre, figurent la défense des lois, la défense du peuple, la défense du sanctuaire de Jérusalem, mais nulle part il n'est question de la reconquête de la terre. Nous y reviendrons. De manière générale, dans le premier livre des Maccabées, les références à Dieu sont très rares, et en plus elles vont en se raréfiant au fur et à mesure du livre. Donc contrairement à l'opinion dominante qui est exprimée dans la théologie deutéronomiste et dans 2 Maccabées, dans 1 Maccabée, ce n'est pas Dieu qui intervient directement pour libérer Israël. En tout cas, ce n'est jamais dit. Hein, ce sont Judas et ses frères qui libèrent Israël. Et l'auteur met constamment l'accent sur leur bravoure, leur mérite, même si bien évidemment on trouve cette idée sous-jacente qu'ils sont élus d'une certaine manière par Dieu pour sauver Israël. Mais Dieu lui-même n'est pas mentionné dans le récit. Donc plusieurs commentateurs ont conclu que le livre était écrit dans un style biblique, mais sous l'influence de modèles historiographiques grecs. Et le but principal de l'auteur, en définitive, semble bien être de construire la légitimité de la dynastie hasmonéenne à diriger la Judée. Les Maccabées n'étaient pas des Oniades, ils n'étaient pas de la famille des grands prêtres qui avaient dirigé jusque-là, qui avaient été écartés brutalement. Et puis, ils avaient également acquis la grande prêtrise de la main de certains dirigeants séleucides, hein, Alexandre Balas en 152 pour Jonathan. On ne peut pas dire qu'ils étaient véritablement choisis par le peuple de Judée comme grands prêtres non plus. Par ailleurs, ils vont assumer un rôle politique et militaire qui, en fait, relève plutôt de la fonction royale, alors que ce sont des prêtres et qu'ils ne sont pas de la tribu de Juda. Donc il y a là aussi un cumul des fonctions inédit dans l'histoire d'Israël qui va soulever des problèmes de légitimité. Et l'auteur du premier livre des Maccabées, finalement, cherche à répondre à cette possible mise en cause en présentant Juda, Jonathan, Simon et Jean Hyrcan comme les héritiers légitimes des rois d'Israël sur le plan de leurs exploits. L'idée, c'est de démontrer que la lignée, finalement, ne compte pas tant que ça. Ce qui compte, c'est la valeur, les mérites. Alors, où est le modèle de Josué dans tout cela? Eh bien, pour beaucoup d'historiens, biblistes, spécialistes du judaïsme du Second Temple, au XXe et au XXIe siècle, les Hasmonéens, les Maccabées, auraient eu la volonté de reconquérir la terre promise et ils auraient vu en Josué un modèle. Certains plus prudents se contentent de penser que c'est l'auteur du premier livre des Maccabées qui a voulu présenter les Hasmonéens, les Maccabées, comme finalement remettant au goût du jour les méthodes de Josué. Donc, dans un cas de figure, il y aurait une influence réelle sur le comportement des chefs hasmonéens. Dans l'autre, on parlerait uniquement d'une influence littéraire sur la façon dont cette période est décrite. Donc c'est quand même une distinction importante. Alors, premier exemple de ce paradigme historiographique, hein, de la reconquête de la terre promise par les hasmonéens, chez William Davis, en 1972, dans « The Territorial Dimension of Judaism ». Je vous lis directement ma traduction française. L'histoire de la conquête et de l'occupation de la terre au temps de Josué était bien présente à l'esprit des Maccabées et à celui des nationalistes du 1er siècle. Donc, ce sont les rebelles juifs qui se révoltent contre Rome. La tentative de retour au désert dans les deux révoltes en témoigne. Abordé brièvement en 1 Maccabée 2, 29-30, ce thème est évoqué dans des circonstances bien plus frappantes dans le récit que fait Joseph de la chute du Temple. Donc en gros, ce que nous explique Davis, c'est que Le fait qu'on retourne au désert, ce sont des préparatifs pour une reconquête de la terre promise, puisque Josué et Israël arrivent depuis le désert. Le problème, c'est que quand on regarde le passage de 1 Maccabée 2, 29-30, en fait, il n'est pas du tout question des Maccabées. Il est question de familles qui veulent continuer à observer le Shabbat et qui se réfugient dans le désert à l'abri, disons, du pouvoir d'Antiochos IV. Et comme ils observent le Shabbat, même le jour du Shabbat, ils refusent de se battre et se font massacrer. Or, le Judas et ses compagnons vont faire exactement le choix inverse. Ils vont faire le choix de combattre le jour du Shabbat. Et ils ne sont pas du tout présents dans cet épisode. Donc en réalité, là, on est vraiment complètement à côté de la plaque. Deuxième exemple, Jonathan Goldenstein, qui a écrit un commentaire du premier livre des Maccabées, et du deuxième aussi, et pendant longtemps, ce fut vraiment la traduction anglaise de référence pour un Maccabée. Il écrit « Notre auteur présente encore Judas comme un second Josué. Les contemporains de Judas, juifs et non-juifs, l'ont probablement fait aussi. Nous pouvons comprendre comment les non-juifs en sont venus à considérer les juifs vivant sur leur territoire comme une cinquième colonne préparant la voie à la nouvelle conquête de la terre promise. » Donc à nouveau, cette idée très explicite ici, Judas, second Josué, projet de reconquête de la terre promise. En fait, Goldstein fait ici référence au chapitre 5 de 1 Maccabée que nous allons examiner en détail plus loin. Et le problème, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas dans la terre promise, et ces populations qui auraient dû se sentir menacées ne sont pas sur la terre promise. Mais là, il y a une confusion qui nous renvoie à cette question très importante du Jourdain comme frontière de la terre promise, dont il a été longuement question dans ce cours. Troisième exemple, Zev Safraï, dans un article publié en 2000, écrit « La conquête ou la libération de la Judée est, comme nous le savons, un commandement divin central et explicite auquel les Israélites ont toujours obéi depuis l'époque de Josué. Les Asmonéens se considéraient sans aucun doute comme liés ou obligés à cette mission, comme le confirment certaines sources, mais cela dépasse le cadre de la présente discussion. » Alors, il faut nous arrêter un petit peu sur cette affirmation pour clarifier quelques malentendus éventuels. Bon, d'abord, vous voyez que son discours se situe à deux niveaux, à la fois donc, au niveau des intentions réelles des Asmonéens, parce qu'un petit peu plus loin, il ajoute « l'influence profonde du concept biblique de la conquête de la terre sur la littérature de l'époque asmonéenne ». Donc là, dans le passage que vous avez sous les yeux, il se situe au niveau de la réalité des intentions des Asmonéens eux-mêmes, et un peu plus loin, il parle de l'influence de Josué sur la littérature de l'époque asmonéenne. Donc on ne sait pas très bien où il se situe exactement. La deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il parle de la libération de la Judée, ce qui est quand même curieux, puisque dans les textes bibliques, il n'est pas question de la Judée, mais de la terre promise dans son ensemble. Alors, il y a plusieurs définitions des frontières, mais il n'est pas question de Judée. Ça, lui, il parle de la Judée parce qu'en fait, dans les livres des Maccabées, il n'est jamais question d'autre chose que la Judée. Alors, maintenant, je voudrais en venir au point le plus problématique de cette affirmation de Zev Safraï, qui est que le commandement de la conquête aurait été un commandement permanent pour toutes les générations dans l'histoire d'Israël. C'est un point de vue qui est récusé par Moshe Weinfeld, un grand spécialiste du Deutéronome, dont nous allons reparler dans un moment, qui écrit qu'effectivement cette opinion a pu exister chez certains penseurs de la tradition juive, notamment Narmanide, au XIIIe siècle de notre ère, à cause du livre des Nombres 33-51-53, qui nous dit la chose suivante, donc c'est Dieu qui parle à Moïse, « Quand vous aurez traversé le Jourdain et pénétré dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes les statues de pierre ou de métal représentant leurs dieux, et vous démolirez leurs lieux sacrés. Vous prendrez possession de leur territoire et vous vous y installerez, car je vous l'ai donné, il vous appartient. » Narmanide se base sur le fait que dans le verset 52, il est question de tous les habitants du pays sans spécification ethnique. On ne parle pas des Cananéens, des Périsites, des Hivites, des Girgashites, etc., comme dans un certain nombre de textes du Pentateuque et de Josué. Tous les habitants du pays, sous-entendu, peut-être à n'importe quelle époque. Mais Moshe Weinfeld ajoute, cette opinion de Narmanide est totalement minoritaire dans la tradition juive, qui tend en réalité à considérer que le commandement de la conquête de Canaan est un commandement unique, donné exclusivement dans le contexte de Josué. Et il faut bien sûr préciser que dans toute une partie de la tradition juive, il y a également une obligation de résider dans la terre d'Israël. Je pense ici à des textes beaucoup plus tardifs, des textes mystiques juifs, mais que l'obligation de résider dans la terre d'Israël n'est pas équivalente à l'obligation de conquérir la terre par les armes. Il y a une distinction fondamentale que faisait notamment le Rav Isaac Jacob Reines, l'un des fondateurs du parti Mizrahi, parti sioniste religieux, en 1902, qui faisait donc très explicitement cette distinction et qui estimait pour sa part que l'obligation d'habiter le pays ne pouvait être matérialisée, concrétisée que de deux manières, soit par la négociation avec les habitants du pays, soit par l'achat de terres. Donc négociation ou achat. Alors j'ai pris cet exemple, même s'il est très éloigné de la période hasmonéenne, pour nous alerter en fait sur le risque qu'il y a à confondre la croyance que la terre a été donnée par Dieu à Israël et l'idée qu'il existerait un commandement permanent de conquérir la terre par les armes, comme si l'un entraînait automatiquement l'autre. Donc il ne faut pas supposer, mais il faut vraiment démontrer que les Hasmonéens avaient le projet de reconquérir la terre, qu'ils se voyaient investi par Dieu de cette mission. Ça n'est pas quelque chose qui va de soi, que l'on peut considérer comme évident. Autre exemple, Christophe Batsch, dans son ouvrage sur la guerre et les rites de guerre dans le judaïsme du Deuxième Temple, 2005, estime lui aussi que les Hasmonéens se voyaient un peu comme les successeurs de Josué et qu'ils mirent en pratique le commandement du Kherem dans leur guerre contre les populations des alentours. Il écrit « Selon les deux premiers livres des Maccabées, Judas incendie bon nombre de cités grecques et massacre à l'occasion leur population. Bien que le mot anathéma en soit absent, ces récits frappent par leur recours au vocabulaire du Kherem biblique, en particulier à l'association des deux expressions « incendier la ville et toutes ses dépouilles » et « passer au fil de l'épée sa population ». Ces destructions sont toutes accomplies sur le territoire que les Maccabéens revendiquent pour Eretz Israël. Alors ici, il y a également un certain nombre de problèmes. D'une part, les livres des Maccabées ne définissent jamais les frontières de la terre d'Israël, sauf peut-être en Maccabée 15, où il s'agit uniquement de la Judée, peut-être élargie à la Samarie. Et puis, comme nous le verrons par la suite, les épisodes auxquels fait référence Christophe Batsch se situent en fait en Transjordanie et non sur la terre donnée par Dieu à Israël. Dernier exemple de ce paradigme, Israël Schatzman, dans un article de 2007, et là je vous ai mis directement le texte en français pour des raisons de place, écrit « Ce cas et les autres indiquent que, contrairement à Judas, qui traita sans doute les ennemis conformément aux règles deutéronomiques qui ordonnaient le bannissement, le Kherem, c'est-à-dire l'anéantissement des Cananéens, Jonathan et Simon estimèrent qu'ils devaient modifier la politique de leurs frères décédés afin de promouvoir et de maintenir leur position politique internationale. La décision de Jonathan et Simon de ne pas exterminer la population non-juive des villes conquises pouvait être justifiée, par exemple, par le fait que ces non-juifs ne faisaient pas partie des sept peuples qu'Israël devait détruire lors de la conquête de la terre promise. Et un peu plus loin, les guerres de Mattathias et de Juda contre les non-juifs ont été une occasion opportune pour appliquer les lois deutéronomiques et ont donc été calquées sur les guerres de Josué contre les peuples cananéens. Voilà, tout ça pour vous montrer que c'est vraiment un paradigme historiographique qui est récurrent dans tout ce qu'on écrit sur les Maccabées et les Hasmonéens. Mais je voudrais quand même pas que vous pensiez qu'il n'y a aucune voix discordante. Et donc je voudrais mentionner donc, notamment ce passage du livre de Moshe Weinfeld, « The Promise of the Land », vraiment consacré à notre question ici, dans lequel il écrit « Dans toutes leurs activités de conquête, les Hasmonéens ne se sont jamais appuyés sur les anciennes lois du Pentateuque concernant la dépossession des Cananéens et l'héritage de la terre promise. Les anciennes traditions de la Genèse ont été réécrites à la lumière des événements contemporains, mais dans la pratique, les Hasmonéens n'ont ni mentionné ni appliqué les anciennes lois concernant la conquête de la terre. » Et plus récemment, Menachem Kister, de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui écrit « Contrairement à Schatzman, que nous avons entendu précédemment, Je ne trouve pas de source montrant de manière convaincante que les Asmonéens considérèrent leur guerre comme analogue à la conquête de Josué et que la loi biblique du Kherem fut perçue comme applicable aux habitants non-juifs du pays. Dans 1 Maccabée, l'ouvrage le plus proche de l'idéologie asmonéenne, il y a très peu d'allusions au peuple de Canaan ou à Josué. D'où une question. Alors, que penser ? Josué joue-t-il un rôle dans le livre, dans le premier livre des Maccabées, voire dans le deuxième ? A-t-il joué un rôle dans la politique menée par les Asmonéens ? Eh bien, c'est maintenant à ces questions que nous allons essayer de répondre. Je mentionnerai juste au passage une autre question. Là, on parle d'histoire de la réception, hein, comment le livre de Josué a pu influencer certains événements ou certains textes juifs postérieurs. Mais il y a quand même un chercheur, John Strange, qui a envisagé aussi que la période asmonéenne soit pertinente pour le livre de Josué du point de vue de l'histoire de la rédaction, puisqu'il estime qu'il y a eu une rédaction du livre de Josué sous l'influence des Asmonéens pour en fait montrer que finalement les Asmonéens auraient réalisé les mêmes exploits que Josué. Donc les Asmonéens sont intervenus vraiment pour modifier Josué, pour souligner davantage les parallèles avec leurs propres actions. On va voir si cette hypothèse tient ou pas. Alors d'abord, il n'y a qu'une seule référence explicite à Josué dans le deuxième livre des Maccabées. C'est au chapitre 12. C'est dans le contexte de cette fameuse expédition de Juda en Transjordanie pour en fait aller sauver des groupes juifs qui étaient menacés par leurs voisins non-juifs. Et ici nous lisons « Juda attaqua aussi une ville protégée par des levées de terre et entourée de remparts qui était habitée par une population de non-juifs très mélangée et dont le nom est Caspine. Les habitants, confiants dans la solidité de leurs remparts et dans leurs réserves de vivres, se conduisirent grossièrement à l'égard des partisans de Juda, les insultant et se mettant en outre à proférer des blasphèmes et des paroles sacrilèges. Les partisans de Juda, après avoir invoqué le grand souverain du monde qui, sans faire usage de béliers ni de machines, avait fait s'écrouler Jéricho du temps de Josué, se ruèrent avec une ardeur sauvage contre le rempart. S'étant emparés de la ville, par la volonté de Dieu, ils commirent d'innombrables massacres, si bien que le lac voisin, qui a une largeur de 2 stades, paraissait rempli du sang qui y avait coulé. » Alors c'est un passage assez représentatif du ton pieux et aussi plein de pathos et d'emphase de 2 Maccabées. Vous voyez ici qu'il y a une référence à Jéricho, qui en fait est amenée par le fait que Caspine est une ville fortifiée, qui a des murailles. Donc en fait c'est l'association entre 2 villes fortifiées qui amène la réminiscence de la victoire contre Jéricho. Et le message, c'est que Dieu peut faire tomber n'importe quelle muraille et que donc il faut être confiant dans l'assaut et que Dieu donnera la victoire à Juda. Comme je l'ai dit précédemment, le contexte de cette opération militaire n'est pas une guerre de conquête territoriale. Nous sommes sur la rive orientale du Jourdain, nous ne sommes pas dans les frontières de la Terre promise. Et par ailleurs, au début du chapitre, il est dit très explicitement que le but de ces campagnes militaires de Juda, c'est de venir en aide aux Juifs qui sont menacés. Donc l'objectif de la guerre est clairement énoncé. Il n'y a pas de confusion possible avec une reconquête de la Terre promise. Et puis, il y a également le motif du châtiment des blasphémateurs, hein, puisqu'ici, ils ont blasphémé, et donc, il faut qu'ils soient châtiés. Alors, un petit peu plus loin, dans le chapitre 12, on pourrait penser que peut-être il y a un autre écho plus indirect du livre de Josué. Je vais donc le mentionner. En fait, il y a une autre bataille qui oppose Juda à l'armée séleucide du général Gorgias, et certains partisans de Juda meurent au combat. Et par la suite, on retrouve sur leur corps des amulettes de divinités polythéistes, de divinités païennes, venant de la ville de Yamnia, Yavné, qui venait d'être prise peu de temps avant par Juda, enfin qui avait été attaquée par les troupes de Juda peu de temps avant. Et on nous dit, sous la tunique de chacun des morts, ils trouvèrent des objets consacrés aux idoles de Yamnia, ce que la loi interdit aux Juifs, et il devint clair aux yeux de tous pour quelles raisons ces hommes avaient succombé. Donc on comprend ici qu'en fait, s'ils sont morts au combat, c'est parce qu'ils avaient fauté en s'appropriant des amulettes de divinités étrangères. Alors, On a pensé évidemment à un rapprochement avec l'épisode d'Akan en Josué 7, qui s'approprie une partie du butin du Kherem de Jéricho. Sauf que les scénarios sont ici radicalement divergents. La faute d'Akan entraîne l'échec de l'opération militaire sur Haï. Tandis qu'ici, l'armée de Juda est victorieuse. Il n'y a pas de défaite. De plus, ce sont uniquement ceux qui ont fauté en emportant des idoles qui sont châtiés. Et puis par ailleurs, il n'y a ici aucune volonté de présenter Juda comme cherchant à exterminer systématiquement tous les groupes qu'il rencontre sur son passage dans ce chapitre 12. Notamment, ce qu'il est important de voir, c'est qu'il est également question de Sitopolis, donc Beth-She'an. Et là, Juda et son armée arrivent aux portes de la ville, et les Juifs de la ville disent « Eh bien, les habitants de Sitopolis nous ont protégés. Ils se sont toujours montrés vraiment amicaux envers nous. » À ce moment-là, Juda remercie les habitants de Sitopolis et s'en va. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une ville cananéenne qu'il faudrait éradiquer parce qu'on serait, soi-disant, dans la terre promise. On est vraiment dans un autre univers. Et ici, pour en revenir à cet épisode des idoles de Jamnia, il est bien plus probable que l'arrière-plan biblique, c'est Deutéronome 7, 25-26, hein, donc l'interdiction de s'approprier les idoles, ni même l'argent ou l'or qui serait sur les statues des idoles. Voilà. Donc c'est peu probable qu'il y ait une intention de l'auteur, hein, derrière la très brève référence aux murailles de Jéricho, qu'il y ait une intention de l'auteur de présenter Juda en nouveau Josué, exterminant les Cananéens. C'est tout pour 2 Maccabées. Alors, 1 Maccabée, eh bien là encore, nous n'avons qu'une seule référence explicite à Josué. C'est dans le testament de Mattathias, au moment où il va mourir, il adresse ce discours à ses fils. « Maintenant, fils, soyez embrasés de zèle pour la loi et offrez vos vies pour défendre l'alliance de nos pères. Souvenez-vous des actions des pères qu'ils ont accomplies dans leur génération et vous recevrez une grande gloire et un renom éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans la tentation, et cela ne lui a-t-il pas été imputé à justice ? Joseph, au temps de sa détresse, a gardé le commandement, il est devenu seigneur de l'Égypte. Phinéas, Pinchas, notre père, pour avoir été embrasé de zèle, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel. Josué, pour avoir accompli la parole, est devenu juge en Israël. Caleb, pour avoir témoigné dans l'assemblée, a reçu une part du pays. David, pour sa piété, a reçu en partage le trône royal pour des siècles. Puis encore 2-3 exemples. Alors, bien sûr, chaque figure évoquée l'est ici de manière très brève, mais tout de même, pour évoquer Josué, c'est un petit peu elliptique. Pour avoir accompli la parole, logos, de quelle parole s'agit-il ? Et puis, il est devenu juge en Israël. Est-ce que c'est vraiment la chose qu'on retient le plus de la lecture de Josué, le fait qu'il soit devenu juge en Israël ? Pour comprendre à quel point cette manière de faire référence à Josué est quand même curieuse, il faut comparer ce passage avec un extrait du livre de la sagesse de Ben Sira, le Siracide, qui lui évoque aussi les pères glorieux d'Israël et notamment Josué. Et dans le Siracide, nous lisons ceci. Alors, c'est à partir du texte grec. Il y a quelques variantes dans le manuscrit B du texte hébreu. J'en mentionnerai une au passage. Donc, il dit « Il fut vaillant dans le combat, Josué, fils de Noun, successeur de Moïse dans les prophéties, lui qui fut, selon son nom, grand pour le salut des élus du Seigneur, exerçant le châtiment contre les ennemis dressés, pour faire entrer Israël dans son héritage. Quelle gloire il s'acquit quand il leva ses mains et qu'il tendit son épée contre les villes. Qui donc avant lui avait tenu ainsi ? Car lui-même conduisait les combats du Seigneur. N'est-ce pas par sa main que le soleil rétrograda et qu'un jour devint comme deux ? Il invoqua le Très-Haut souverain quand ses ennemis le pressaient tout autour, et le Seigneur, le Grand, l'exauça par des pierres de grêle d'une terrible force. » Il fondit sur la nation hostile, dans la descente il fit périr les adversaires, afin que les nations connussent toutes ses armes et que sa guerre était menée devant le Seigneur. En effet, il marcha derrière le puissant dans les jours de Moïse, il accomplit la miséricorde, lui et Caleb, fils de Yéphouné, pour tenir ferme en face de l'assemblée, pour détourner le peuple du péché et faire taire le murmure de la méchanceté. Aussi, ces deux hommes furent-ils sauvés parmi 600 000 hommes de pied pour être introduits dans l'héritage, dans la terre où coule le lait et le miel. Ah, vous voyez qu'ici, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus détaillé. Il y a une variante au verset 6, hein, « Afin que les nations connussent toutes ces armes », en fait, dans le texte en hébreu, c'est plutôt « Afin que chaque nation connaisse le Kherem ». Donc ici, on a une référence explicite au Kherem, qui n'est pas présente dans le texte grec. Alors, on voit qu'à contrario, la référence à Josué dans le premier livre des Maccabées est très peu militaire. Il n'est pas du tout fait référence aux exploits militaires de Josué, à cette fameuse victoire du chapitre 10 évoquée tout à l'heure, hein, les pierres qui tombent du ciel, le soleil arrêté dans sa course. En fait, il n'y a aucun intérêt pour le miraculeux, hein, dans cette référence à Josué dans un Maccabée. Et finalement, dans le premier livre des Maccabées, ce qui compte plutôt, c'est la fidélité de Josué. Alors, fidélité au commandement, peut-être déjà lors de la première exploration du pays, hein, en nombre 13-14. Fidélité, bien sûr, au commandement de conquérir la terre et de la donner à Israël. Mais vous voyez que l'auteur aurait pu, de mille manières, même en une ligne, faire référence à Josué comme combattant, comme guerrier, comme conquérant de la terre promise, et il ne le fait pas. Et en fait, si on réfléchit un peu à cette liste où on voit que Joseph est devenu seigneur de l'Égypte, Phinès a reçu la grande prêtrise, enfin en tout cas un sacerdoce éternel, David reçoit la royauté, on voit que ce qui intéresse l'auteur ici, c'est plutôt le fait que ces différents personnages héritent d'une fonction, héritent d'une distinction, d'un statut. Et là encore, repensons à ce que je vous disais en introduction, l'auteur du premier livre des Maccabées cherche à légitimer, hein, la dynastie asmonéenne, à légitimer leur statut, leur fonction à la fois royale et sacerdotale. Donc on peut comprendre ici plutôt cette insistance sur ces différents personnages, dont Josué, par ce souci-là. Alors, j'en viens à une question importante pour notre sujet, à savoir, les Maccabées ont-ils pratiqué le Kherem ? Est-ce qu'ils ont vu dans les nations qui les entouraient des Cananéens ? Est-ce qu'ils ont massacré jusqu'au dernier tel ou tel groupe ? Donc, rappelons que dans la Bible, le Kherem ne s'applique qu'aux sept peuples de Canaan et aux Amalécites, hein, qui, eux, sont des descendants d'Ésaü. Donc il n'y a pas de commandement de Kherem systématique contre les autres peuples ennemis d'Israël. Dans les livres des Maccabées, la plupart des combats ou des guerres que mènent Juda, Jonathan et Simon sont en fait des combats menés contre les armées séleucides, qui sont diverses, qui sont composées de mercenaires de différentes nations, qui ne sont pas nécessairement des locaux. Il y a des Chypriotes, il y a des Phéniciens, puis effectivement il y a ce qu'on pourrait appeler des Syriens, il y a des Grecs, enfin bon, il y a de tout. Donc, en tant que tel, les armées séleucides ne sont pas assimilables à des Cananéens. Mais il existe un épisode en particulier qui a alimenté la discussion, c'est cette fameuse expédition de Juda pour punir des villes qui avaient maltraité des groupes juifs, donc épisode qui se situe essentiellement en Transjordanie. Je ne reviens pas sur le chapitre 12 de Maccabée, puisqu'on l'a déjà vu. Donc je passe directement au chapitre 5 de 1 Maccabée. Alors, au commencement, Juda est décrit comme combattant les fils d'Ésaü. Mais on nous dit « Les peuples des alentours résolurent de supprimer ceux de la descendance de Jacob qui étaient au milieu d'eux, et ils commencèrent à mettre à mort et à faucher parmi le peuple. Juda combattait contre les fils d'Ésaü en Édumée, près de l'Acrabathène, parce qu'ils assiégeaient Israël. » Il les frappa d'un grand coup, les réduisit et prit leurs dépouilles. Puis il se souvint de la méchanceté des fils de Baïan, qui étaient devenus pour le peuple un traquenard et une embûche, en se postant en embuscade contre eux sur les chemins. Il les enferma dans leur tour, campa contre eux, les voua à l'anathème, donc c'est bien le verbe anathématizein, et incendia les tours avec tous ceux qui étaient dedans. Anathématizein qui traduit en fait l'hébreu les acharim. Donc la notion de Kherem. Et juste pour préciser, dans le deuxième livre des Maccabées, nous n'avons aucun emploi du verbe anathématizein. et aucun emploi d'anathéma dans le sens de cherem, au sens de destruction. Ça désigne des offrandes faites au temple, comme ça l'est dans la littérature grecque en général. Donc, ici, nous avons la seule occurrence de cette notion de l'anathème du cherem dans le premier livre des Maccabées. De quoi s'agit-il ? Alors, les fils d'Ésaü en Idumée, donc fils d'Ésaü, c'est-à-dire les Édomites, qui deviennent à l'époque hellénistique les Iduméens, et effectivement, il y a eu un déplacement. À l'origine, ils sont sur la rive orientale du Jourdain, et là, ils se trouvent également au sud de la Judée. Donc ici, a priori, il s'agit d'un combat contre des Iduméens en Idumée, au sud de la Judée. Ensuite, il y a cette référence aux fils de Baïan, qui étaient pour le peuple un traquenard et une embûche, et qui se postaient contre eux en embuscade. Alors, faut-il voir dans cet usage de anathématizein, ici, bon, une simple, disons, une espèce de résurgence de vocabulaire biblique archaïque, sans plus de conséquences, ou faut-il y voir un sens fort et intentionnel ? Les fils de Baïan seraient considérés comme des Cananéens qu'il faudrait exterminer ? Je ne pense pas. Ici, il semble qu'en fait, que les fils de Baïan soient un sous-groupe des fils d'Ésaü, donc ils ne puissent pas être assimilés aux Cananéens. Et par ailleurs, je pense qu'il s'agit en fait d'une référence aux Amalécites. Je pense qu'ici, les fils de Baïan sont considérés comme des Amalécites, des descendants d'Amalek. Amalek étant, je vous le rappelle, descendant d'Ésaü. Alors pourquoi ? Parce qu'au verset 4, l'expression « il se souvint de la méchanceté des fils de Baïan » rappelle très fortement Deutéronome 25-17, hein, le commandement de se souvenir des méfaits d'Amalek contre Israël. C'est le même verbe qui est employé, « souviens-toi ». Et puis, la suite du texte, la description qui est donnée du comportement des fils de Baïan ici, posant des traquenards, cela évoque clairement la façon dont Amalek se postait sur le chemin des Hébreux dans le désert pour s'en prendre de manière traître au plus faible qui était resté à la fin du cortège, hein, d'après Deutéronome 25-18. Donc ici, il s'agit plus probablement en fait d'un écho aux actions de Saül, qui a soumis les Amalécites au cherem, que réellement du cherem contre les Cananéens de Josué. Et cette impression se renforce si l'on analyse l'ensemble du chapitre 5 de 1 Maccabée, parce qu'en fait, Judas mène une série de campagnes qui commencent en fait, juste immédiatement après ce passage-ci par les Ammonites et qui se terminent par les Philistins, un peu comme dans 1 Samuel 14, 47-48, qui décrit les actes de Saül. Quand Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux Ammonites, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins. Partout où il allait, il était vainqueur. Il déploya sa force, bâtit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Et en fait, si on regarde l'ensemble du chapitre 5, qui est très long, on ne peut pas le lire en entier, on voit que Judas va s'attaquer à peu près tous les groupes qui sont mentionnés ici dans 1 Samuel 14. Ce qui renforce, à mon avis, cette idée que nous avons affaire en fait ici à un groupe qui est assimilé aux descendants d'Amalek. Donc, pour l'instant, toujours pas de Cananéens. Alors, dans la suite du chapitre 5, il est question de massacres de populations de diverses villes qui avaient menacé des Juifs. Tout d'abord, donc, Judas rencontre des Nabatéens. Ceux-ci vinrent à leur rencontre pacifiquement et leur racontèrent tout ce qui était arrivé à leurs frères de Galaadite, donc de la zone orientale du Jourdain, que beaucoup d'entre eux se trouvaient emprisonnés à Bossora, à Bossor près d'Alema, à Caspo, Maked et Karnaïm, toutes villes fortes et grandes. Que dans les autres villes de la Galaaditide, il y en avait aussi d'emprisonnés, qu'on avait fixé au lendemain de camper contre les forteresses, de les occuper et de les retrancher tous le même jour. Donc c'est ce que je vous disais, les textes sont très explicites sur le fait que ce qui motive les batailles qui vont suivre, c'est le souci de délivrer des Juifs menacés. Premier exemple, à Bossora, donc nous lisons, brusquement, donc, Judas fit prendre à son armée à travers le désert le chemin de Bossora. Une fois maître de cette ville, il tua toute la population mâle au fil de l'épée, s'empara de toutes leurs dépouilles et livra la ville aux flammes. Et puis, ben, là aussi, on a en fait un scénario qui se répète. Hein. Alema, autre ville qui menaçait des Juifs, se détournant ensuite sur Alema, il l'attaqua, la prit, tua toute sa population mâle, s'empara de ses dépouilles et livra la ville aux flammes. Et enfin, troisième exemple, à Éphron, la ville fut livrée entre ses mains, il fit périr toute la population mâle au fil de l'épée, la détruisit de fond en comble et s'empara de ses dépouilles. Alors ce sont ces passages qui font écrire à un certain nombre d'historiens que les Asmonéens ont vraiment mené des guerres de Kherem contre les populations des alentours. Mais si on regarde de plus près, en réalité, il semble plutôt que l'auteur de Maccabée veuille suggérer que Judas a appliqué les lois de la guerre du Deutéronome relatives aux villes extérieures à la Terre promise. Ce qui serait logique, puisqu'on est en Transjordanie, à l'extérieur de la Terre promise. En effet, vous les connaissez sans doute, mais on les relit quand même rapidement, Deutéronome 20 dit « Quand tu te présenteras devant une ville pour l'attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte ta paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve sera astreint pour toi à la corvée, ils seront tes esclaves. Si elle ne fait pas la paix avec toi, si elle te fait la guerre, alors tu la siégeras. Le Seigneur ton Dieu te la livrera. Tu passeras toute sa population mâle au fil de l'épée. Les femmes, les familles, les bêtes, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras. Et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis, celui que le Seigneur ton Dieu t'aura donné. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font pas partie des villes de ces nations-ci, des sept peuples de Canaan, à l'ouest du Jourdain. Mais dans ces villes de ces peuples que le Seigneur ton Dieu te donne comme patrimoine, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Tu frapperas d'anathème, de Kherem, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébusites, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre le Seigneur votre Dieu. » Donc vous voyez qu'ici nous retrouvons dans la première partie du texte les éléments de la description des attaques de Juda contre les villes de Transjordanie. Ce n'est donc pas un cas de Kherem. Ils ne sont pas perçus comme des Cananéens. Mais il y a un dernier exemple que je voudrais évoquer avec vous. C'est au chapitre 9 de 1 Maccabée, le conflit avec les fils de Jambri, qui lui aussi est un texte qui a été parfois cité comme une preuve d'une vision, disons, d'une réactualisation du livre de Josué. Dans ce texte, qui se passe un petit peu plus tard, c'est Jonathan qui envoie son frère, qui commandait au peuple, demander aux Nabatéens, ses amis, la permission de déposer chez eux leurs bagages qui étaient nombreux. Les fils de Jambri, ceux de Médaba, firent une incursion, se saisirent de Jean et de tout ce qu'il avait et repartirent avec. Après ces événements, on annonça à Jonathan et à Simon, son frère, que les fils de Jambri célébraient une grande noce et conduisaient de Nadabat, en grande pompe, la fiancée, fille d'un des grands potentats de Canaan. Enoston, Mégalone, Mégistanone, Canaan. Ils se souvinrent du sang de Jean, leur frère, et ils montèrent se cacher sous l'abri de la montagne. Ils levèrent les yeux, regardèrent, et voici un bruit confus, puis des bagages en grand nombre. Le fiancé, ses amis et ses frères s'avançaient vers eux avec des tambourins, des instruments de musique et des armes en grand nombre. De leur embuscade, ils s'élancèrent sur eux et les tuèrent. Il en tomba beaucoup de blessés, et les autres s'enfuirent vers la montagne. Puis on prit toutes leurs dépouilles. La noce se transforma en deuil, et la voix de leurs instruments en lamentation. Ils vengèrent le sang de leurs frères et retournèrent vers le marais du Jourdain. Alors, à cause de ce nom Canaan, dans ce texte, un unicum, là aussi, c'est la seule référence à Canaan ou Cananéen dans tout le premier livre des Maccabées, à cause de la présence de ce nom, ce texte a été lu comme voilà, une projection du modèle de Josué sur le récit du premier livre des Maccabées. Mais si on regarde d'un petit peu plus près ce texte, on se rend compte qu'en fait, ce sont les fils de Jambri qui sont tués ici et non pas des Cananéens. En fait, le Cananéen, si l'on veut, c'est le père de la fiancée qui, lui, est absent. Donc, et les fils de Jambri, d'après les recoupements qu'on peut faire dans le reste du texte, sont plutôt une tribu arabe, en réalité, apparentée, bien que distincte, aux Nabatéens. Donc là encore, c'est un peu étrange. Si l'auteur avait véritablement voulu suggérer un Kherem, il se serait quand même pris autrement. Par ailleurs, le Kherem implique de massacrer tous les membres du groupe, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on laisse un certain nombre de personnes s'enfuir. Et puis en fait, On peut se demander si ici, il n'y a pas eu un problème de transmission textuelle et de traduction. Puisqu'en fait, le terme Canaan ou Cananéen, après il faudrait imaginer un texte hébraïque un petit peu différent à l'origine, mais le mot cananéen peut se comprendre, se lire différemment, comme commerçant. Hein ? Par exemple, ici, dans ce passage d'Isaïe 23, 8, « Mi ya'ad zot al tzor ama'atira, asher sohareh asarim, kinanea nirbade aretz » Qui a formé ce projet contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient honorés de toute la terre. Hein ? Là, on voit « kinan » plutôt que « knan ».« Kinani »,« knani ». Et effectivement, les traducteurs de la Septante, eux, comprennent le sens de « commerçant », de « marchand ». Ils ne traduisent pas par « cananéen ». Mais il y a pu y avoir des confusions. Par exemple, en Proverbe 31-24, dans le texte hébreu nous dit « Sadin asta vatimkor vachagor natna laknani ». Elle fait des sous-vêtements de lin et les vend, elle livre des ceintures aux commerçants. Vous ne trouverez pas une traduction en français qui vous traduise « elle livre des ceintures aux cananéens ». Par contre, les traducteurs de la Septante, qui d'ailleurs avaient un pluriel, rendent de manière assez littérale « cananéens ». Mais on voit que ce mot, finalement, se prête éventuellement à une double lecture. D'où une question, dans 1 Maccabée chapitre 9, ne s'agissait-il pas plutôt d'un des grands commerçants, une fille d'un des grands commerçants de la région, dans la forlague hébraïque, dans le texte hébraïque d'origine? Nous ne le saurons pas tant que nous n'aurons pas retrouvé le manuscrit du texte hébraïque, mais c'est quand même un scénario assez possible. Alors, je conclue. Donc vous vous en serez, je pense, rendu compte, hein, ni la figure, ni en fait le récit du livre de Josué n'est un modèle privilégié ou une référence centrale dans les livres des Maccabées. Et pour tout vous dire, ce serait l'objet d'un autre exposé, David et Salomon, également Saül et Jonathan, sont des références beaucoup plus centrales pour l'auteur. Et comme je l'ai déjà expliqué, en fait, l'auteur cherche véritablement à dépeindre les actions de Judas, Jonathan et Simon sur le modèle des rois d'Israël. Mais également en référence aux rois hellénistiques, et ce serait encore un autre propos. Donc les références occasionnelles, ponctuelles à Josué ou au livre de Josué, ben finalement elles font partie d'un mélange de réminiscences, de tournures bibliques plutôt éclectiques qu'utilise l'auteur, et qui servent à relier les Asmonéens à un passé biblique de manière générale, mais sans que l'accent soit mis sur Josué en particulier. Et donc je conclus que les Asmonéens n'ont pas cherché à reconquérir la terre promise, et que même l'auteur de 1 Maccabée n'a pas cherché à présenter les Maccabées comme de nouveaux Josué qui auraient voulu reconquérir la terre promise et éradiquer les Cananéens. De la même manière, il y a trop peu de correspondance entre le livre de Josué tel que nous le connaissons aujourd'hui et les livres des Maccabées pour conclure qu'il y a eu une édition du livre de Josué sous les Asmonéens qui aurait visé à rapprocher en fait les deux scénarios. Donc l'hypothèse de John Strange restera étrange. Et en définitive, ce à quoi nous faisons face, c'est au fait que plusieurs passages de 1 Maccabée ont fait l'objet d'une surinterprétation. Et nous pourrons peut-être débattre ensuite des causes de cette surinterprétation. Et il convient vraiment de les lire différemment pour comprendre le propos du livre, en distinguant, je le répète une fois de plus, le niveau de la représentation littéraire du niveau des événements historiques, qui eux doivent être éclairés aussi par tout le contexte hellénistique de la dynastie asmonéenne. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre au sérieux la dimension religieuse du discours tant du deuxième livre que du premier livre des Maccabées. Les Asmonéens avaient un certain nombre de motivations religieuses, comme la purification du temple de Jérusalem, la fidélité aux lois de la Torah. Mais cette dimension politico-religieuse de la lutte asmonéenne ne doit pas être confondue avec un projet de reconquête de la terre promise. Et pour vraiment finir, je voudrais faire un saut dans le temps et évoquer un passage du Talmud de Jérusalem au traité chiite. qui nous dit ceci. Rabbi Shmuel Bar Nachman dit « Josué a envoyé un triple décret, un prostagmam, un mot grec, en terre d'Israël avant qu'ils entrent dans le pays. Quiconque veut s'en aller, qu'il s'en aille. Quiconque veut faire la paix, qu'il fasse la paix. Quiconque veut faire la guerre, qu'il fasse la guerre. » Le Girgashit s'en alla et crut en Dieu, le Saint béni soit-il, et partit pour l'Afrique. Jusqu'à ce que je vienne et vous emmène vers un pays comme le vôtre, c'est l'Afrique. Les Gabaonites firent la paix, ainsi qu'il est dit. Comment les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël? 31 rois firent la guerre et tombèrent. Alors, c'est une réécriture assez extraordinaire du scénario de Josué. Je ne commenterai pas la question du Girgashit, mais on pourra y revenir si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la relecture de l'épisode avec les Gabaonites. Car dans la Bible, vous le savez, maintenant que vous avez suivi le cours de Thomas Römer, les Gabaonites sont condamnés pour leur ruse, qu'ils certes leur obtient une forme de paix avec Israël, mais c'est quelque chose de négatif. Ils ont trompé Josué. Ici, c'est totalement positif, c'est même une initiative de Josué lui-même. Il propose la paix. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ce texte rabbinique, donc attribué à un Amora de la fin du IIIe siècle de notre ère, avec ce que nous dit Flavius Joseph de la politique de Jean Hyrcan, le fils de Simon, vis-à-vis des populations de l'Idumée. Donc Jean Hyrcan va conquérir l'Idumée et il va proposer aux Iduméens finalement le choix entre les trois options suivantes: faire la guerre, s'enfuir, ou bien judaïser, adopter les lois juives et devenir finalement une partie du peuple juif. On parle parfois de conversion, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme en l'occurrence. Donc, ce qui revient finalement à une cohabitation paisible entre Iduméens et Judéens. Et on peut se demander si finalement cette tradition postérieure dans le Talmud de Jérusalem n'a pas, peut-être même inconsciemment, la mémoire de ces événements du grand pontificat de Jean Hyrcan, où précisément ces trois scénarios étaient envisagés: la paix, le départ et le combat. Voilà, je vous remercie et je prendrai vos questions avec plaisir.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.